Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rosh Hashanah, le nouvel an juif, commence ce soir. Il sera suivi le 8 octobre par Yom Kippour, le jour du grand pardon. Nous entrons donc dans la période des grandes fêtes juives et à cette occasion, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, est notre invité. Pour rappel, Raïm Korsia a été élu en juin 2014 pour un mandat de 7 ans et parmi les fonctions occupées au service de la République, Raïm Korsia a été aumônier général israélite des armées et membre du comité consultatif national d'éthique. Le grand rabbin de France était aussi un ami du président Jacques Chirac, décédé jeudi dernier, et c'est à la veille de l'annonce de sa disparition que le grand rabbin de France est venu dans notre studio à RFI. Monsieur le grand rabbin, bonjour. Rosh Hashanah, et qui pour rassemble des fidèles réguliers, mais aussi des pratiquants occasionnels et des personnes non-croyantes. Alors, est-ce qu'il faut voir dans ces deux célébrations davantage un moment familial et communautaire qu'un moment religieux?
On ne peut pas dire que ce soit des personnes non-croyantes. Venir à la synagogue, c'est espérer, d'une manière ou d'une autre. Espérer, non pas forcément quelque chose d'extérieur, qu'on appelle Dieu, à qui on demande finalement tant et tant de choses, mais espérer partager le destin commun du peuple d'Israël. Et dans les synagogues, on peut trouver à tel ou tel moment de l'année, parce qu'il y a d'autres moments qui sont des grands moments. On a la Pâque, on a Pourim qui rappelle l'histoire de la reine Esther. On a beaucoup de rendez-vous, qui sont des rendez-vous à la fois familiaux, dans cette sorte de liturgie de la table que le judaïsme a le génie de proposer comme outil de transmission aux enfants, ce qu'on fait par exemple le soir de Rosh Hashanah, on a un repas familial dans lequel on va consommer des choses sucrées pour dire que l'année soit sucrée. Mais c'est quand même pas habituel. Et donc, ça encourage les enfants à poser des questions, à s'intéresser. C'est-à-dire qu'on produit du sens. C'est ce que disait Bossuet. L'aigle de Meaux disait, pardon si un rabbin cite un évêque, mais comme il est une part du génie français, on peut le faire. Bossuet disait, vivre, c'est consommer du temps. Et nous, ce qu'on essaie, c'est consommer du sens. C'est-à-dire que quand, par exemple, le soir de Rosh Hashanah, nous allons manger de la pomme trempée dans le miel, c'est une façon de dire, on va essayer de rendre doux tout ce qu'on va faire cette année. Quand, lorsqu'on va consommer des grains de grenade, c'est une façon de dire que nos mérites soient aussi nombreux et donc innombrables que les grains de grenade ou que les grains de sésame. Donc chaque fois qu'on va manger quelque chose, on va essayer de chercher du sens. Et donc même si vous n'avez pas ce que d'aucuns pourraient qualifier la foi du charbonnier, vous avez tout au moins le rêve, l'espérance de partager l'espérance des autres. Parce que c'est lorsque nous sommes rassemblés que nous pouvons vivre toute la diversité de ce qu'est le judaïsme. Et donc effectivement, au moment de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est là où nous avons les plus grandes fréquentations, même si il y a d'autres moments de l'année, parce que les gens se disent c'est là que nous sommes jugés, et même si chacun peut prendre la distance qu'il veut par rapport à la chose religieuse, il est au moins proche des autres, de ceux qui prient.
Alors, une question. Pourquoi on célèbre d'abord le Nouvel An avant Kippour, le jour du grand pardon? Ça serait plus logique, si je puis dire, de faire le ménage intérieur et puis de dire, bon voilà, maintenant on repart sur une nouvelle base et on part pour le Nouvel An.
Ben, c'est exactement cela, sauf que vous traduisez le Nouvel An et vous le transposez, enfin Rosh Hashanah, vous traduisez Nouvel An et vous transposez à la fête qui peut se passer en France ou dans le monde sur le Nouvel An. Pour nous, le Nouvel An, Rosh Hashanah, c'est un temps de jugement. Donc c'est pas un temps Yukaidi Yukaida. C'est un moment où on dit à Dieu, mon Dieu, voilà ce qu'on a essayé de faire du monde que tu nous as confié durant l'année qui passait. Et voilà ce qu'on rêverait de pouvoir faire, à titre individuel et à titre collectif, du monde dans l'année à venir. Et une fois que on a fait ça, alors on peut se préparer au ce qui serait, si Rosh Hashanah c'est le jugement, Kippour serait l'appel, la cour d'appel. Mm-hmm. Et là, on jeûne. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de souffrance. On dit, mon Dieu, les questions ancillaires de la vie, manger, boire, secondaire. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Et donc, à ce moment-là, on vient devant lui comme des pécheurs que nous sommes tous, en disant, voilà, essaye de juger peut-être pas forcément les mérites que je peux avoir, mais ma volonté. Je rêverais de faire bien. Juge-moi au moins sur ma bonne volonté.
Et aide-moi.
Et aide-moi, oui. Et ensuite, après Kippour, il y a la fête de Soukhot, deux jours, la fête des cabanes, puis la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. On ne peut réellement partager la joie que quand on est certain d'avoir été pardonné par Dieu.
La Torah, précisément, il y a des femmes qui ont dansé autour de la Torah récemment. C'était au congrès des filles de Rachi à Troyes, hein, où il y avait, c'était les voix du judaïsme qui étaient rassemblées, les voix féminines du judaïsme. Sur cette question de la représentation des femmes dans le judaïsme, quelle est votre position?
Chacune a trouvé sa place. Et il est évident que, en dehors de ce qui est interdit par la loi, par la règle, ce qu'on appelle en hébreu la halakha, ce qui n'est pas interdit est permis. C'est une grande règle. Ce qui n'est pas interdit est permis. On voit, par exemple, dans la Bible, que les femmes chantent, après les chants de la sortie de la mer Rouge, c'est dans Exode chapitre 15, on voit les hommes chanter, le peuple chanter, puis les femmes prendre des tambourins et chanter. Donc, aucun empêchement. La question, c'est, est-ce qu'il faut en faire une sorte de spectacle? Est-ce qu'il faut en faire une sorte de victoire? Est-ce qu'il faut en faire un symbole? Moi, je pense simplement que les choses importantes, profondes, se vivent sans ostentation. Et donc, on n'a jamais interdit aux femmes, ou à qui que ce soit d'ailleurs, de participer à tout ce qui peut se construire dans les synagogues. Il y a des limites qui sont celles des règles, mais je pense qu'aujourd'hui, peu de gens acceptent les règles. C'est le principe de notre société qui n'accepte pas les règles, qui n'accepte pas les limites. Moi, je suis un disciple de Georges Braque, qui est probablement un de nos plus grands peintres, parce qu'il a su inspirer à Breton tout ce qui est le surréalisme, il a su inspirer à Picasso, même une partie de son œuvre. Et Georges Braque disait « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». Je pense qu'il faut être capable d'accepter des limites à ce qu'on voudrait faire, parce que c'est dans la limite et l'acceptation de cette limite, même si on tutoie la limite, qu'on se construit en tant que société humaine.
Là, effectivement, ça a élargi le propos, mais restons pour l'instant dans le judaïsme, avant de passer à d'autres questions, notamment les questions de bioéthique, hein, dont on va parler. Dans le judaïsme, les femmes, c'est vrai, n'occupent pas une place, elles occupent une place mineure, on va dire,
non,
dans la pratique.
Non, je ne peux pas préciser ça, d'autant que...
Il y a trois femmes, simplement, rabbins en...
Non, mais c'est pas la question.
Oui, c'est pas la question.
On mesure pas l'intégration au nombre de rabbins. Enfin, c'est vraiment, bon, que ce soit une obsession, moi, je veux bien.
Les femmes rabbins, oui.
Non, mais c'est pas ça. Bon, on peut pas me dire que les femmes occupent une place mineure dans le judaïsme quand la judaïté est transmise par la mère. Le père, il monte et il descend. S'il a un enfant avec une femme qui n'est pas juive, l'enfant, certes, porte un nom juif, et c'est beaucoup déjà. Il fait partie du destin du peuple juif, mais son enfant n'est pas juridiquement reconnu comme juif. Et donc, alors qu'une maman juive qui a un enfant avec quelqu'un qui n'est pas juif, l'enfant est reconnu comme juif, à 100%, sans limitation de ses possibilités. Donc, je crois qu'il faut juste mesurer ce que ça veut dire, la part de chacun. Alors, globalement, si l'enjeu c'est de pouvoir enseigner les femmes, il y a les femmes qui enseignent, il y a les femmes qui font des cours. De ce point de vue-là, on n'a pas attendu qu'il y ait un titre de rabbin, puisque rabbin veut dire mon maître, celui qui enseigne. On l'a depuis des années et des années, depuis le Talmud. Des femmes qui enseignent, le Talmud parle de Bruria, la femme de Rabbi Meir, qui enseignait au rabbin. Donc on fait pas œuvre de modernité, d'innovation radicale, en disant on a tant de femmes. C'est pas la question. La question c'est que chacun doit trouver sa juste place. Et si, par exemple, des femmes me disent, et je l'entends, on n'accepte pas le type de séparation qu'il y a dans les synagogues, par exemple, synagogues orthodoxes, hommes et femmes sont séparés, comme l'étaient les églises il y a très peu de temps, il y a 40 ans, 50 ans, j'entends que ce ne peut être un type de séparation qui rejette à l'arrière. Et donc, on peut faire, aujourd'hui, dans les synagogues modernes qu'on construit, des séparations où hommes et femmes sont au même niveau d'écoute de la Torah, au même niveau d'application par rapport à la prière. Mais le principe étant que on soit séparé, pas comme une sorte de défense, de rejet de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre, mais comme le simple constat que quand on vient prier, on veut d'une certaine manière être détaché des obsessions du monde. Or, les obsessions du monde, c'est pas les femmes pour les hommes, c'est l'autre pour chacun. Et donc, quand d'une certaine manière, on n'est pas confronté, je ne peux pas dire une tentation, parce qu'on pourrait dire, mais finalement, il faudrait cadenasser nos tentations, ce qui serait plus simple. Mais, disons que l'organisation des synagogues s'est faite dans une séparation qui n'est pas le rejet de l'un ou de l'autre. Ça va. Et jamais, et c'est là que votre question est importante, jamais on doit accepter que quelqu'un ait le sentiment d'être rejeté. Tant qu'on respecte la règle.
Ou infériorisé, oui.
Oui. C'est-à-dire de là qu'est venu, je crois, les plus grandes erreurs dans le monde, c'est quand on infériorise quelqu'un, quand on l'infantilise.
Quelques mots encore sur les femmes rabbins. Il y a des jeunes femmes orthodoxes qui étudient.
Mais pardon.
Qui étudient à New York, par exemple, pour devenir rabbin orthodoxe. Non?
Il y a des femmes orthodoxes qui étudient parce que les filles aussi doivent étudier. Ce serait quand même paradoxal qu'on dise, c'est aussi aux femmes d'éduquer leurs enfants, sans qu'elles ne sachent à quoi les éduquer. Donc ce serait une injonction paradoxale. Enseigner, mais on vous interdit d'apprendre, c'est pas possible. Donc évidemment, les enseignements sont donnés aux garçons et aux filles. Les cours que je donne sont jamais séparés. C'est des cours où tout le monde parle. Dans ma synagogue, j'ai imposé un principe simple dans les repas. Quand un garçon fait un commentaire, une fille derrière fait un commentaire. Il s'agit pas de minorer les uns ou les autres. En revanche, il y a d'autres façons d'enseigner que la fonction rabbinique, si tant est que quelqu'un soit capable de définir ce qu'est la fonction rabbinique.
Il ne faut pas être obsédé, selon vous, par la fonction rabbinique.
Non.
Comment se porte la communauté juive ?
Grâce à Dieu, très bien. On construit des synagogues, on inaugure des synagogues. Il y a une revitalisation de tout un pan de nos communautés. Il y a des communautés qui revivent parce que beaucoup sont considérés comme étant dans l'obligation de partager le combat de la permanence, de la pérennité du judaïsme. Alors qu'on a des ennemis qui veulent lutter de manière obsessionnelle contre le judaïsme, il y a des antisémites qui refusent même qu'on existe, il y a certains qui voudraient qu'on soit absolument invisible. Nous, on dit simplement, on est des citoyens français, nous sommes en France des citoyens français, qui bénéficions, comme tous les citoyens, du don de la laïcité, qui est la liberté de pratique religieuse, et donc on exerce cette liberté de pratique religieuse autant que faire se peut, avec la limite du bien commun, de l'intérêt public, voilà.
Entre 2017 et 2018, il y a eu une augmentation de 74% des actes antisémites.
Mais c'est pas le chiffre, pardon.
Oui.
C'est la nature. Le chiffre.
C'est la nature de ces actes.
Vous me diriez, il y a eu quoi ? 74%, ça vous fait bondir à juste titre. Il y aurait 20%. Vous direz, ça va ? À combien ça va ? Même un seul acte qui ferait 0,01. Un seul acte. C'est que la société a quelque chose de tragique. Et on doit se mobiliser de la même façon, mobilisation collective. Moi, j'ai la conviction que l'antisémitisme, c'est un peu comme un virus qui mute. Et si un virus mute, alors la lutte contre ce virus doit muter. On a, vous parlez de ma participation au comité national d'éthique il y a quelques années, on voyait bien qu'on avait, par exemple, des populations qui devenaient résistantes à certains types d'antibiotiques. Il faut donc changer les antibiotiques, parce que la lutte change de cadre, de plan, de niveau. La lutte contre l'antisémitisme, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de nouvel antisémitisme, d'ancien antisémitisme. Il y a la haine de celui qui est différent et qui est en même temps le même.
Le besoin du bouc émissaire aussi.
Oui, exactement. On le voit dans certains pays. En France, moins, mais c'est le principe. Je crois que cette lutte pour du judaïsme, pour être ce qu'il est, a toujours été menée avec deux obsessions chez nous. La première, de porter ce que nous sommes. La deuxième, de le porter avec les autres. Dans une sorte d'unité nationale pour la France. Et ne serait-ce que une ultime démonstration, c'est la prière pour la République que nous récitons dans toutes les synagogues, qu'on va réciter évidemment au moment des fêtes, parce que nous le récitons tous les samedis dans nos synagogues, où on demande, dans notre foi, au moment où on a le rouleau de la Torah dehors, sorti, à Dieu de bénir et de protéger la République française et le peuple français. Parce que la France, c'est une part de ce don de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la justice, du droit, tout ce que nous essayons de construire, tant bien que mal en France. Mais prier pour cela, c'est dire, il y a quelque chose de spirituel dans l'application citoyenne qui est la nôtre.
Vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez les questions de limites, ça c'était dans le domaine du religieux. Alors la question des limites dans le domaine bioéthique, c'est précisément le sujet. Donc vous avez été effectivement membre du conseil consultatif d'éthique. Aujourd'hui, parmi tous les sujets posés par la révision des lois de bioéthique, il y a la PMA, la procréation médicalement assistée, donc pour les femmes seules ou les femmes en couple. Vous, votre réponse, elle est très simple en fait. C'est non ? Ou
non.
C'est plus subtil que ça ?
C'est plus subtil dans la mesure où je crois qu'il y a un grand principe en France, c'est la liberté individuelle. Et ce qu'on voit dans cette loi, c'est pas le permettre. C'est l'organiser. L'organiser sur ce qui est un mensonge. Je m'entends. Mensonge théorique. On veut éliminer le père. Quand j'entends les uns ou les autres, ou les unes ou les autres dire, bah, il y a des mères qui peuvent être pères. Enfin, c'est comme si vous demandiez à un danseur de patinage artistique d'être rugbyman. C'est pas la même chose. Peut-être qu'il aime les deux sports. Enfin, dire qu'une mère peut être père, il y a quelque chose de faux C'est-à-dire que c'est une abstraction théorique qui ne répond pas à la réalité de la vie. Ce que moi, j'essaye de dire, c'est oui à la liberté de chacun. Regardez, on a mis une limite, encore une fois on parle de limite, on a mis par exemple une limite pour l'insémination artificielle, d'âge, une limite d'âge. On sait très bien qu'il y a des femmes qui vont au-delà de cette limite d'âge, parce qu'elles ont attendu, parce que c'est un choix difficile, parce que physiquement c'est lourd, parce que c'est un engagement de vie. Et je comprends toute cette souffrance. Elles vont à l'étranger. Vous croyez qu'on va leur dire quand elles reviennent, non, on vous connaît pas, on n'aide pas votre grossesse, on accompagne, bien sûr qu'on aide leur grossesse, et on les prend en charge, la sécurité les prend en charge, parce que c'est une question de choix personnel, et ensuite, on accompagne cette personne qui est une citoyenne, et qu'on accompagne. On lui a pas dit, fais-le, mais si elle le fait, on accompagne. C'est différent de dire, on va organiser pour qu'on aille le faire, ce que d'aucuns voudraient. Donc moi, je pense que il y a une grande différence entre accompagner, ou en tout cas, je dirais presque, entendre la souffrance des uns, des autres, des unes, des autres, sur certaines questions, notamment liées à la maternité, à la paternité, et dire, tout ce que vous voulez, c'est bien. Non. Ça peut être fait, mais avec votre liberté. Ne nous mettez pas, nous, le peuple, la nation française, comme étant les cautions morales. Oui, c'est bien. Non, ça pose question. Moi, je dis, c'est simple. Si on touchait à rien, ça va très bien. Et simplement, on continue à faire comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire chacun trouve les infractuosités dans la loi qui lui permet d'être libre sans être hors la loi. Mais là, on voudrait, pour faire plaisir à certains, et encore pas tout le monde, mais à certains ou certaines, transformer ce qui est le fondement de la société, c'est-à-dire qu'il faut un père et une mère de manière idéale. Alors, on va me sortir telle famille, élever tel enfant, élevé par deux papas, ou enfin deux papas, deux hommes ou deux femmes, il s'est très bien comporté dans la vie, il a été très bien, oui, c'est très bien pour lui. Mais est-ce que c'est l'idéal? Si on dit que c'est l'idéal, alors il faut changer de société, il faut changer de monde.
Est-ce qu'on est justement à un moment de mutation anthropologique majeure?
Mais mutation anthropologique, ça ne nie pas l'anthropologie première. Que les familles aient changé, oui. Ça n'existait pas, les familles monoparentales choisies. C'était les accidents de la vie qui rendaient une maman seule, un papa seul. Mais c'était pas un choix. Maintenant, vous avez, depuis ce qu'avait chanté si joliment le grand rabbin presque, Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Cette chanson qui était assez symptomatique d'une époque. Bon, ok, on va pas empêcher. Mais comment ça se faisait? Elle a fait un bébé tout seul. Elle le faisait pas in vitro. Elle le faisait, comment je dirais ça, in vivo. Bon, alors je dis pas qu'il faut que toutes les femmes homosexuelles qui vivent en couple avec des femmes se trouvent un bon ami pour faire le petit. J'ai pas dit ça. Je dis simplement que chaque fois, toujours, on trouve une façon d'être dans un système global, même si on est légèrement aux marges de ce système. Mais dire, je veux qu'on ramène le modèle du système à ce que moi je suis alors que je suis à l'extérieur du système, là, il y a quelque chose d'assez incroyable. Parce que brusquement, les enfants qui vont voir un père et une mère vont devenir quasiment des ringards. Et je trouve que c'est presque dangereux pour les pères qui ont... Freud explique ça, le père c'est celui qui est désigné par la mère. Donc le père c'est une construction sociale qui s'insère dans la tentation de fusion, la pulsion de fusion entre la mère et l'enfant. Mais si on enlève le père, on enlève tout ordre, toute dimension sociale à ce qu'est la famille. Et moi je trouve que c'est dangereux. Maintenant, je dis pas que le monde va s'écrouler, je dis pas, on a vu d'autres, et chaque fois on nous annonçait des horreurs, et puis ça s'est pas passé. Mais je me dis, c'est toujours, on voit bien qu'en réalité, avec cette révision permanente des lois biotiques, c'est toujours le combat d'après qu'on vise. Et on voit bien, alors que la GPA n'est pas dans le projet de loi.
Vous pensez qu'elle le sera dans une prochaine, une prochaine révision?
Donc en fait,
vous,
quelle est l'étape? Quelle est la limite sur laquelle on nous dit pas de GPA. Ok, mais dans 4 ans, dans 8 ans. Donc on voit bien qu'on est en train de plonger dans la marchandisation, dans avoir des enfants à la carte, dans une façon de ne pas voir que, comme nous apprennent les sociologues en sociologie des organisations, le but premier d'une organisation, c'est la pérennité de l'organisation. Et donc, notre histoire s'est transmise par des familles où il y avait la fonction du père, la fonction de la mère. Maintenant, les familles sont différentes. Ok, je le vois. D'ailleurs, on me demande pas mon avis. Je le constate. Et je veux pas minorer les uns ou les autres, que ce soit les enfants, les parents, on minore personne. Mais qu'on ne nous oblige pas à le faire en notre nom.
Alors, dernière question. Que faut-il vous souhaiter pour ce nouvel an juif, Raïm Corsia?
Ben, je crois qu'il faut souhaiter qu'on soit capable de transformer le monde et de l'améliorer. Faire ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation du monde. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule méthode, se réparer soi-même, se transformer soi-même.
Je vous remercie.
Shana Tova, bonne année.
Merci, bonne année à vous aussi.
Nador gibor asher al ha-mishmeret Ulechol noter ba'ir ba'kfar Birkat chazak nimseret
Shana tova
Shana tova lechol amel ba'anir ve'gam ba'meret Shana tova לאכול ילדה והילד שנה טובה, שנה טובה.
L'humain, son devenir, les mutations en cours de l'humanité avec les progrès vertigineux de la science, ces grandes interrogations. Notre invité Bertrand Vergely, philosophe de confession orthodoxe, les propose telle une vigie à ses lecteurs. Bertrand Vergely, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous enseignez en classe préparatoire ainsi qu'à l'Institut Saint-Serge et que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. La tentation de l'homme-dieu que vous avez publié en 2015, la destruction du réel en 2018 étaient des alertes par rapport au pouvoir de la science. Votre dernier essai, intitulé « Notre vie a un sens », publié chez Albin Michel, comment le situer, Bertrand Vergely?
Je le situe dans une grande discussion avec mon époque. Je suis né dans un environnement intellectuel qui était en état de révolte. Et cet état de révolte amenait un soupçon à l'égard de la question du sens de la vie. Et il semblait à mon milieu intellectuel d'être plus juste si on était dans le désespoir et la révolte. Et alors il m'a semblé qu'à un moment il fallait rentrer en discussion et poser la question philosophique, est-ce que la vie n'a vraiment pas de sens? Voilà. Les philosophes en terminale posent la question, est-ce que la vie a du sens? Moi, je suis né dans un monde où on pensait qu'il était bon d'être révolté, désespéré, et donc de ne pas donner de sens à la vie, et j'ai discuté philosophiquement en disant, quels sont vos arguments? Pourquoi dites-vous que la vie n'a pas de sens? Et j'ai essayé de répondre à cette question.
Alors, philosophiquement, j'allais dire aussi religieusement, parce que vous avez la foi, vous l'exprimez, Dieu fait partie, je dirais, de ce sens que vous donnez à la vie.
Dans la grande tradition de la métaphysique classique, je pense avec Dieu. Le monde moderne pense sans Dieu, moi je pense avec Dieu.
Vous êtes un cas dans le monde de l'enseignement supérieur?
Écoutez, j'ai des collègues comme moi qui ont ce sens de Dieu. Et la majorité autour de moi ne l'avait pas, mais pas tout le monde, pas tout le monde, je suis pas tout seul, il y a des gens, mais disons que philosophiquement, j'ai osé l'exprimer, tout le monde n'ose pas l'exprimer, certains trouvent ça naïf, d'autres déplacé, d'autres très bien.
Alors, penser le sens sans Dieu, c'est possible aussi, Bertrand Vergely, ou pas, selon vous?
Écoutez, fondamentalement, non. Parce qu'il s'agit de savoir si la vie a fondamentalement du sens ou pas. Je dis qu'elle a fondamentalement du sens parce que je pense qu'il y a cette dimension transcendante qu'est Dieu, et plus qu'une dimension, une personne. Et je dirais que j'ai une discussion par exemple avec André Comte-Sponville, et pour lui, au fond, la question est simple, c'est un faux problème.
C'est une illusion, Dieu est une illusion.
C'est un faux problème, Dieu est une illusion, c'est un faux problème. Donc, le philosophe matérialiste et athée dira, moi, pour moi, c'est un faux problème, j'ai pas besoin de Dieu pour vivre, et j'ai pas besoin même de donner du sens à la vie, pourquoi voulez-vous absolument que la vie ait du sens? Voilà. Donc ça, la discussion est claire, et je trouve ça très intéressant. Alors, je suis pas d'accord avec André Comte-Sponville, mais je le remercie de poser les questions, parce que cette question me fait réfléchir.
Et avec Michel Onfray, qui estime que
même chose,
le mal...
Je pense que soit Luc Ferry, Michel Onfray, ou bien encore André Comte-Sponville, ou bien encore Albert Camus, il y a une remise en question de la question du sens de la vie. Avec un bémol quand même pour Luc Ferry, puisqu'il a écrit Le sens de la vie, l'homme-dieu, et lui a pensé que le sens de la vie, c'est l'homme. Moi, je pense que le sens de la vie, c'est l'inouï de l'existence qui nous vient de Dieu.
En fait, c'est le quelque chose plutôt que rien.
Voilà.
Hein,
voilà.
Plutôt que rien.
Et alors, ce qui donne une certaine cohérence à ce que je dis, c'est que je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui me disaient, au fond, fondamentalement, la vie n'a aucun sens, elle est totalement absurde. Quand on pense que la vie n'a pas de sens ou est absurde, c'est que, comme Camus, on est révolté et on dit qu'elle ne doit pas avoir de sens parce que il y a trop de gens qui souffrent, je suis révolté contre le mal, donc je ne donne pas de sens à la vie. Voilà.
Vous citez la phrase de Malraux, Bertrand Vergely. C'est dans votre conclusion d'ailleurs. C'était en 1964, lors d'un entretien avec Roger Stéphane.
Oui.
André Malraux dit « Le monde moderne est la première civilisation dans l'histoire de l'humanité pour qui l'homme et la vie n'ont aucun sens. »
Oui, et je pense que ce constat est vrai et totalement stupéfiant. C'est-à-dire que dans toutes les civilisations qui nous ont précédées, l'homme avait toujours du sens, la vie avait toujours du sens, et jamais on n'aurait eu l'idée de penser qu'il y a fondamentalement rien. Et tout d'un coup, il y a une rupture qui se fait dans le 19e et dans le 20e siècle, et une sorte de tout d'un coup, on est dans le nihilisme métaphysique. Et qu'est-ce qui permet d'expliquer le nihilisme métaphysique? Je pense l'énergie que ça donne par rapport au monde dans lequel on vit. Je dis que je ne crois en rien. Finalement, je stupéfie un peu mon monde autour de moi. Ça me donne beaucoup d'énergie, ça donne une certaine attitude et posture. Et donc, je trouve de l'énergie à l'intérieur de ce rien.
Et vous estimez qu'il y a beaucoup de conformisme là-dedans?
Oui, je trouve que à un certain moment, au fond, c'est une sorte de réponse automatique. Et finalement, qui n'alimente pas grand-chose. Et moi, je préfère, je pense qu'il faut avoir un véritable questionnement. Je pense que dans la question métaphysique, on rencontre à un moment le vide, la solitude, le néant.
Ça vous est arrivé ?
Non. Moi, quand j'ai rencontré le vide, j'ai rencontré le vide créateur. J'ai rencontré le néant créateur. Alors, le néant créateur, c'est ce qu'on trouve chez Maître Eckhart, qui dit qu'à un certain moment, Dieu va tellement au-delà de tout ce que nous imaginons que pour le rencontrer, il faut quelque part passer par une forme de néant. Et Maître Eckhart, d'une manière assez géniale et presque, il faut dire, taoïste, disait, invité à pratiquer un vide intérieur.
Oui, c'est très asiatique tout ça.
Ce que je trouve absolument. Et ce que je trouve absolument génial. Et donc, à un moment, je comprends que le vide et le néant mystique soient quelque chose de stimulant. Mais le néant mystique a du sens par rapport à l'être fondamental. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec Aristote qui disait « Il est impensable que nous venions de l'obscurité. Nous venons de la lumière. » Voilà. Et donc ça, c'est des présupposés fondamentaux qui m'ont guidé dans la discussion philosophique.
Présupposés d'un philosophe qui a la foi. Faut quand même le rappeler.
Et mais vous verrez que dans le livre, je situe la foi au centre de mon analyse, c'est-à-dire que.
Mais pas que, c'est vrai. Pas que.
C'est-à-dire que premièrement, disons que dans le livre, il y a trois parties. La première, c'est la naissance de la question. Et pour moi, la question du sens, elle naît avec un appel et une expérience métaphysique très forte chez l'homme. C'est qu'à un moment, il s'ennuie dans un monde qui est vide de toute perspective métaphysique et il se sent appelé par autre chose. Ensuite, il y a une discussion au sens métaphysique et physique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien à l'origine de l'univers et puis comme destination? Et c'est là où je dis, eh bien, je suis au regret de vous dire que Dieu, ça tient la route. Et puis ensuite, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure personnelle. C'est quand quelqu'un inspiré à la fois par l'appel intérieur et en même temps par la pertinence de l'idée de Dieu, à un moment s'aventure et va dans la découverte spirituelle. Et là, il y a une sorte de conjonction entre l'être et la personne qui se rencontre dans des extraordinaires aventures qui remplissent la vie de sens.
Oui, et d'ailleurs vous citez à cette occasion, dans ce troisième chapitre, cette histoire d'un chef cuisinier, bon, qui a plein d'étoiles, etc., puis qui à un moment donné veut refaire quelque chose d'extrêmement, je dirais, proche de la nature.
Exact.
Quitte un peu cette obsession des étoiles pour aller s'alimenter dans la ferme voisine, etc. Et voilà, donner une bonne nourriture avec des bons produits. Ça, pour vous, c'est une aventure spirituelle, ça.
Mais oui. Et du coup, il passe de 2 étoiles à 3 étoiles et il a exactement l'essence de l'aventure spirituelle. Il est dans son entreprise, tout va très bien, et à un moment, il sent un appel intérieur qui lui dit « fais autre chose, révolutionne-toi, va au-delà de toi-même ». Il change complètement sa manière de voir, et là, il multiplie, démultiplie ce qu'il fait. Et je me suis dit, c'est quand même très curieux que cet homme ait découvert la spiritualité. Je signale qu'Héraclite a dit la même chose. Un jour, des visiteurs viennent le voir et ils sont étonnés de le voir finalement cuisiner. Et il leur dit, les dieux sont aussi dans la cuisine. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, c'est que l'aventure spirituelle se trouve parfois au cœur des choses les plus simples. Et ce chef cuisinier étoilé avait, à un moment, vécu une aventure spirituelle par une remise en question pour aller vers quelque chose de transcendant. Voilà.
Even if we are well attuned with the crooked ways that led us here. So much yet to learn. We have to get to know each other, love each other.
Vous pouvez réécouter Religion du Monde sur www.rfi.fr.
Autre exemple, et là c'est sur la question du refoulement du sens, ou en tous les cas du tabou du sens,
oui,
plus exactement. Cet exemple, vous l'avez pris dans une entreprise où on pose la question, quel est pour vous le sens de notre entreprise?
Voilà. Alors,
quel sens va notre entreprise?
Oui.
La réponse,
oui,
évidemment, elle est très convenue.
Oui, la réalisation des objectifs. C'est-à-dire, et tout d'un coup, on s'aperçoit que les gens n'avaient rien compris à la question du sens. Ou bien encore,
oui,
il y avait un jeu.
Voilà, c'est plutôt ça.
C'est-à-dire qu'ils ont dit ce que la direction avait envie d'entendre.
Voilà.
Et la direction elle-même se fichait totalement de la question du sens. Elle voulait surtout, quelque part, faire semblant de traiter la question. Le sens, ça aurait été raconter une journée où vraiment vous avez été heureux dans l'entreprise. Alors là, il y a du sens, parce que tout d'un coup, l'entreprise me parle. Et elle m'emmène dans une aventure humaine, voire une aventure morale et spirituelle. Mais pour ça, il faut oublier les objectifs et la quête du profit pour uniquement s'intéresser aux personnes et à l'aventure. Voilà. Et je disais, là, on est dans un jeu. On fait semblant de trouver du sens. C'est très à la mode aujourd'hui de trouver du sens et de donner du sens. Mais je disais, le sens, c'est pas ça. Voilà. Le sens, c'est merveilleux, c'est heureux. Ça nous parle. Le sens, c'est du langage. C'est au sens de la signification, ça nous parle, c'est du langage, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Vous avez dit merveilleux, Bertrand Vergely, vous avez consacré un livre à,
oui,
l'émerveillement.
Oui.
Vous trouvez qu'on ne s'émerveille pas assez?
Ben, écoutez, à titre personnel, beaucoup de gens ont spontanément des émerveillements, mais parfois ils en ont honte, parce qu'ils ont peur de passer pour quelque peu niais. Qu'est-ce que c'est qu'être émerveillé? C'est pas simplement être ébahi et plein d'admiration, c'est être miroir et rentrer dans l'aventure intérieure et transcendante qui fait qu'à un moment, les choses vous parlent à l'infini. Et vous êtes émerveillé. Pourquoi? Parce que derrière des choses simples, vous voyez des choses infinies. Et c'est ce que je vis. Et puis quelque part, je dis, écoutez, je m'aperçois une chose. Quand je vis les choses en profondeur, ça a une réalité à l'extérieur. Et quand les choses ont vraiment une réalité à l'extérieur, ça me parle toujours de l'intérieur.
C'est ce que vous appelez, Bertrand Vergely, vivre avec la vie.
Exactement. Et retrouver ici la grande vision des Grecs, où les Grecs vivaient avec Dieu qui était le vivant parmi les vivants, et ils voyaient et ils se nourrissaient de la vie divine. D'ailleurs, je viens de terminer un livre que j'appellerai « Le rêve perdu de la sagesse grecque » et dans lequel je parle de l'itinéraire de l'homme divin. Voilà. Et le rêve des Grecs, c'était dire vivre comme un dieu parmi les hommes. C'est-à-dire un être qui est plein de cette vie et il n'a pas besoin d'autre parce qu'il a trouvé en lui-même ce que les hommes font chercher à l'extérieur d'eux-mêmes.
Alors, ceci nous amène, Bertrand Vergely, à un autre sujet, la question du transhumanisme,
oui,
de la postmodernité.
Oui.
Vous avez consacré un livre à ce sujet, La Tentation.
Trois.
Alors, moi, j'en connaissais vraiment bien un, La Tentation de l'Homme-Dieu,
tout à fait. Hein,
que vous avez publié en 2015, à vos éditions Le Passeur, La Destruction du Réel, hein, c'est voilà. Ce que je citais au début. Vous êtes très inquiet, vous estimez que l'homme, en voulant s'humaniser davantage, est en train de se déshumaniser.
C'est-à-dire, au nom de l'humanisation de l'homme, on veut le pouvoir total de l'homme sur l'homme. Et le pouvoir total de l'homme sur l'homme se passe par une violence qui est faite à l'égard de l'homme, puisque l'homme devient un homme fabriqué. J'expliquais ce matin à des élèves à qui j'enseignais que l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais vous n'appliquez pas ça à l'homme et vous ne branchez pas l'homme directement sur Internet en voulant lui fabriquer un super cerveau. La vérité, qu'est-ce qui est intelligent? C'est d'être heureux, c'est pas d'être puissant. Et l'idée aujourd'hui catastrophique que l'on a, c'est de dire, par l'intelligence artificielle, nous allons fabriquer un homme puissant. Je crois qu'il y a un manque d'humilité terrible et qui risque de tout détruire, et en particulier de détruire les bienfaits des avancées technologiques. Si on reste humble en disant, écoutez, on va faire de l'intelligence artificielle, on va poser les avions, on va peut-être aider les hommes pour différentes tâches, mais on n'a pas l'intention de remplacer l'homme et de fabriquer un nouveau dieu. Pas de problème. Effectivement, utilisons l'intelligence artificielle. Mais attention, je lisais il n'y a pas plus tard que 2 jours dans un journal comme Le Figaro, des articles sur des projets qui sont de fabriquer un super cerveau par une hybridation entre la machine et l'homme. Et là, on est dans la violence. Et surtout, on est dans un projet totalitaire qui est de dire, nous allons fabriquer l'homme. Hein. Qu'est-ce qui nous protège de la barbarie? L'humilité devant la part sacrée, unique qu'il y a dans la personne humaine et le fait de ne pas la violer. Et donc, il y a un moment où on se tait, on regarde, on loue, on chante, on fait tout ce qu'on veut, on médite, mais on arrête de vouloir être dans la performance, dans la domination. Et là, je dis, attention, il y a une dérive dans l'idéologie scientifique qui, à un moment, devient folle. Olivier Rey dit exactement la même chose dans son livre intitulé « Une folle solitude », également des dérives de la science. Attention, il y a une science qui devient totalement folle. Il y a une technologie qui devient totalement folle. Et donc, je crois qu'il faut effectivement tirer la sonnette d'alarme, et on s'en aperçoit au niveau de la planète aujourd'hui. Pour la première fois, on se demande si on n'est pas allé un peu trop loin dans l'exploitation des richesses et des catastrophes écologiques qu'on risque de produire. Je vous signale que le problème existe au niveau de l'homme, c'est-à-dire la volonté qu'a l'homme de pouvoir tout contrôler, y compris l'homme, est une idée folle.
C'est-à-dire que vous estimez que l'écologie doit s'appliquer également à l'homme, ce qu'on appelle d'ailleurs l'écologie humaine.
Et même ce qu'on appelle l'éco-spiritualité, c'est-à-dire que l'homme retrouve son oikos, sa maison, qui est sa maison céleste. Et là, effectivement, l'homme est appelé à la vie divine, mais c'est Dieu qui lui donnera la vie, c'est pas lui qui va se la donner à lui-même. Hein? Et pourquoi est-ce que Dieu nous donne la vie? Parce que la vie qu'il va nous donner sera infiniment plus belle que celle que nous fabriquerons. Voilà. Mais donc je pense qu'il y a un vrai problème et qu'il faut penser l'avenir. Et là, si on n'a pas des mesures de limites absolues et de vie spirituelle pour vivre, alors là, on va droit à une catastrophe.
Oui, mais la question, c'est qu'il y a une sortie de Dieu, donc qui permet précisément cela,
bien sûr,
que vous décrivez.
Mais bien sûr. Et malheureusement, le problème est là. C'est-à-dire qu'il y a des moments, la sortie de Dieu, si c'est pour éliminer le fanatisme et la barbarie de certaines idéologies religieuses, oui. Mais si c'est pour éliminer la profondeur, la génialité, l'extraordinaire, le sublime de l'existence, l'ineffable de l'existence, non. Et je pense qu'à un moment, sous prétexte d'éviter la barbarie, eh bien qu'est-ce que fait? On est devenu des barbares en coupant l'homme de ses racines spirituelles, c'est-à-dire émerveillé devant le mystère de la vie.
L'écologie, vous estimez que ça peut être une dictature verte. Expliquez-vous, Bertrand
Vergely. Écoutez, je trouve qu'actuellement, il y a des gens qui ont une vision de l'écologie uniquement punitive. Ils vivent dans la peur, ils veulent sauver la planète, et pour sauver la planète, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans une espèce de discours hyper moralisateur, il faut dire un discours totalement dictatorial, où il faudrait interdire ceci, interdire cela, comment vous fumez encore, comment il y a encore des voitures, comment vous prenez encore l'avion, etc., etc. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que l'homme se rééquilibre, et il se rééquilibrera spirituellement et intérieurement, et pas simplement par une dictature verte, comme le souhaitait à un moment ce grand penseur de l'écologie Hans Jonas, dans le principe de responsabilité, qui dit si on veut sauver la planète, il va falloir une dictature. C'est-à-dire, l'idée de la dictature que l'on voit apparaître à tous les niveaux de la vie quotidienne me paraît, si vous voulez, la solution pour la planète, pour les nuls. C'est vraiment la solution pour les nuls. Et c'est l'idée de dire, voilà, c'est en vous tapant sur les doigts que finalement vous allez comprendre et changer. Je remarque une chose, le féminisme est soumis, est exactement à la même dérive. Et on est consterné. Des causes justes deviennent à un moment des causes aberrantes. Alors, on a cette chose que j'ai souvent entendue chez mes élèves. Oui, mais si on n'est pas violent, on change pas les choses. Je suis désolé, la violence ne change rien. Vous voulez lutter contre la violence du monde par la violence. Donc je pense qu'il faut nourrir les êtres humains et qu'à un moment, tout se rééquilibre quand l'homme reçoit sa véritable nourriture.
Quelques mots encore pour terminer. Bertrand Vergely, ça n'est pas l'objet de votre livre, de votre dernier livre, La question du sens, mais vous êtes vous surveillez de près les questions de bioéthique.
Oui.
Il y a les lois qui sont actuellement donc en discussion.
Oui.
Comment voyez-vous la question, par exemple, de la PMA les femmes seules ou les femmes en couple?
La PMA me paraît être un message catastrophique qui va être donné au monde, c'est-à-dire c'est la fin de l'homme pour faire un enfant et c'est la fin du père pour l'élever. C'est tout. Et je crois qu'on n'ose pas regarder la réalité en face, c'est-à-dire en apparence c'est ouverture, tolérance, enfin, les couples de femmes homosexuelles pourront avoir des enfants. La vérité est tout à fait autre. La vérité, c'est que, à un moment, des femmes vont dire, on n'a plus besoin de vous pour faire des enfants, on prend juste votre sperme et on se débrouille entre elles, entre femmes. Ça veut dire, c'est la fin de la collaboration entre l'homme et la femme pour pouvoir faire un enfant. Et derrière, c'est la disparition du couple homme-femme. C'est tout. Le couple homme-femme est en train de sauter pour des raisons idéologiques, parce que la théorie du genre est derrière le libéralisme total, est en train de vouloir prendre possession de la planète et de dire « nous ne voulons plus que le couple homme-femme soit le couple fondateur, sera un couple parmi d'autres, et puis finalement, l'idéologie transgenre va prendre la place, et c'est ça que nous voulons. » Donc, il faut bien voir dans quoi on est. On est dans un changement total d'humanité, avec quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à présent, c'est le fait de vouloir directement éliminer le couple homme-femme. Or, symboliquement, c'est ce qui se fait. Donc là, je vais vous dire, c'est gravissime. Le débat est complètement piégé parce que dès que vous vous élevez, à un moment on dit vous êtes intolérant, vous êtes homophobe. C'est pas vrai. C'est pas un problème d'intolérance, c'est pas un problème d'homophobie, c'est qu'un problème de vérité. Par quoi on fait un enfant? Est-ce qu'on fait un enfant avec simplement ici l'utérus d'une femme, là du sperme? On fait un enfant avec des êtres humains qui s'appellent un homme, une femme et pas simplement du sperme et une ovule, et on parle à un moment d'humanité, de réalité. Moi je veux vivre dans un monde réel avec des personnes réelles, je veux pas vivre dans des abstractions au nom d'impératifs idéologiques.
Mais on pourrait dire, Bertrand Vergely, que c'est une forme de dépassement de la loi naturelle pour combler précisément ce que certains peuvent ressentir comme une injustice de femmes qui sont ensemble, qui veulent avoir un enfant, fonder une famille. Ça peut être un contournement de la loi naturelle.
Alors, c'est totalement un contour de la loi naturelle, mais ça va beaucoup plus loin, parce que cette notion de loi naturelle est un concept totalement affadi, et il faut revenir à la réalité de ce qui se passe. La vérité, c'est que le fait qu'un enfant soit fait par un homme et une femme est un mystère d'une beauté inouïe, qui dépasse tout ce qu'on peut avoir, toute imagination. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est ce qui nous amène dans l'essence des choses. Qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? C'est la loi essentielle. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel, c'est le mystère entre un homme et une femme qui fait que j'ai besoin d'un autre pour pouvoir faire de la vie. Exactement de la même manière que l'homme est lié à son autre qui est Dieu pour devenir un homme accompli, eh bien, sur le plan de la vie, et comme sur le plan de la vie amoureuse, on passe par son autre pour pouvoir s'accomplir soi-même. Or, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on en finit avec Dieu, on en finit avec l'homme, on en finit avec la vie, et on rentre dans un monde qui est le monde de l'individu qui fait ce qu'il veut en modelant l'être humain à l'infini selon ses fantasmes. Et donc, on ne veut plus un moment d'identité pour pouvoir façonner l'homme comme on le veut. Je vous signale que dans l'avenir, il y a 4 limites que l'on est en train de faire sauter. Vous avez la différence Dieu-homme, homme-animal, homme-machine et homme-femme. Eh bien, regardez bien ce qui se passe. Aujourd'hui, on veut faire sauter ces 4 limites en disant « Dieu, c'est moi ». On ne veut plus de différence sexuée en disant que c'est une invention culturelle. On veut supprimer la différence homme-machine en disant « les machines vont s'humaniser et vont devenir des hommes ». Et l'homme est un animal comme un autre. Si vous dites que l'homme a une spécificité, vous êtes raciste et spéciste. Donc, on a affaire ici à un combat de grande envergure et avec des projets pour changer totalement la face de l'humanité. Et bien évidemment, ça, c'est ce que j'appellerais un projet de vie fondamentalement athée. C'est-à-dire, l'homme n'est plus une personne unique qui nous vient de l'ineffable, mais l'homme, nous allons le créer, le façonner selon nos fantasmes et nos désirs.
Donc pour vous, c'est le nouveau totalitarisme, Bertrand Verschelin.
Nous sommes en train, tranquillement, d'aller vers le totalitarisme. Et ce totalitarisme, je le vois apparaître dans la vie quotidienne, où on est surveillé, en particulier au niveau des mots, par des gens qui ont pris en main nos esprits et qui veulent nous faire bien penser, bien parler. Alors, on a affaire derrière des causes justes, la lutte contre le racisme, la lutte contre la misogynie, la lutte contre l'homophobie. Toutes ces luttes pour le respect humain sont, par principe, extrêmement honorables. Sauf que derrière, on a affaire à une dictature, et il faut dire à une véritable bande de flics qui sont là à nous dénoncer. D'ailleurs, un des mots les plus importants du langage aujourd'hui, c'est dénoncer. On passe son temps à dénoncer. Alors, on dénonce au nom de la lutte contre le racisme, au nom de la lutte contre l'homophobie, au nom de la lutte contre la misogynie, contre le spécisme. Et qu'est-ce qui se passe ? On est tranquillement dans une dictature exactement comme celle décrite par Orwell dans 1984. Et alors là, les choses s'accélèrent. Il n'y a pas une journée sans laquelle, à un moment, on n'ait pas des débats ou avec des interdictions et des gens qui viennent vous expliquer comment il faut bien penser et bien parler pour sauver notre humanité.
Et vous voulez résister, donc ?
Écoutez, moi, je suis payé par la République pour faire réfléchir. Donc, on me dit, vous voulez interdire. Je ne veux interdire rien, je n'ai pas le pouvoir d'interdire. Simplement, on me demande de faire réfléchir. Et donc, je dis, voilà ce qui me semble vrai, voilà ce qui me faut. Maintenant, c'est à vous de choisir. Si vous voulez vivre dans un monde totalitaire, faites-le. Mais moi, j'ai pas l'intention, j'ai pas les moyens de lutter contre ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est important, c'est la vérité. J'ai passé tout l'été à réfléchir sur les penseurs grecs. Et les penseurs grecs disaient, les gens racontent n'importe quoi et il n'y a pas de relation entre les mots et puis d'autre part les choses. Il faut mettre en relation les mots et les choses. Eh bien, je m'aperçois qu'actuellement, le monde dans lequel on est me trompe. Et comment ça se passe ? On m'explique que je suis conditionné et on va, pour me déconditionner, me reconditionner autrement. Voilà. Et je pense qu'on est dans cette dérive.
Je vous remercie Bertrand Verschelin, ce sera le mot de la fin. Je rappelle le titre de votre livre, Notre vie a un sens, et c'est publié chez Albin Michel. Merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Apolline Verlon-Raison vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.